soucieux de bien comprendre tous les enjeux, il vous montre l'autre côté de la médaille. Vincent Desseaux.
La pénurie de logements se poursuit un peu partout à travers le pays et au Québec. Et parmi ceux qui y goûtent, c'est les étudiants. Les étudiants qui doivent parfois quitter la maison pour aller étudier quelque part et qui se retrouvent alors qu'ils ont un très faible revenu, là, parfois près de zéro, ou capables d'avoir un travail à gauche, à droite pour avoir un petit salaire. Et là, qui se retrouvent sur un marché où les appartements coûtent une fortune. Je me souviens, moi, je suis parti il y a 17 ans, là, en appartement à Jonquière. Je pense que ça coûtait 660 $ par mois, un immense appart. On était trois, donc fait 220 $ par mois. C'était quand même assez gérable à l'époque, sans trop de problèmes. On n'est plus nécessairement dans ces prix-là, surtout dans les grandes villes, on le comprend. Donc, une situation difficile. Heureusement, certains s'attaquent à trouver des solutions. Parmi ceux-là, il y a l'UTIL, en fait, l'unité de travail pour l'implantation de logements étudiants, qui arrive avec des statistiques intéressantes sur ce problème-là, et ce qui pourrait entre autres être fait pour essayer d'aider un peu les étudiants à se loger sans devoir se casser ou, je suppose, s'endetter un peu trop. On en parle avec le directeur général de l'UTIL, Julien Lévesque. Monsieur Lévesque, bonjour.
Bonjour Vincent, comment allez-vous?
Ça va bien. Donc là, vous avez fait un peu le portrait de la situation, entre autres, sur combien ça coûte et à quel point c'est difficile de trouver un logement pour un étudiant.
Exactement. En fait, un des défis là, d'agir sur le logement étudiant, c'est que c'est une population qui est invisible dans les statistiques de logement, le recensement. Tout ça, ça sous-estime la réalité étudiante. Il y a même un économiste de la CIBC qui a évalué qu'on sous-estime la demande résidentielle de 300 000 logements au Canada parce qu'on voit pas la demande étudiante. Donc, c'est pour ça que nous-mêmes, on a réalisé des enquêtes pour être capable de commencer par chiffrer le problème avant de travailler sur les solutions.
Ouais, parce qu'on comprend que c'est une population qui, en ce moment, dans le logement, ta facture monte quand t'es obligé de bouger, là. Ceux qui sont dans le même appartement depuis longtemps sont moins affectés, mais les étudiants, justement, ça dure que quelques années, ils doivent justement se déplacer de ville en ville. Quel est l'état de la situation que vous dénotez après vos recherches?
Ben, vous avez mis le doigt dessus. Le problème, c'est que la population étudiante, elle est sans cesse renouvelée. Donc, chaque année, chaque rentrée, c'est une nouvelle génération de jeunes qui quittent le nid familial, qui se cherchent un logement. Souvent, ils sont obligés parce qu'ils doivent changer de ville pour étudier. Puis là, ils ont accès à un marché locatif qui est honnêtement de pire en pire à chaque année. Puis ça, ce que ça fait, c'est que les loyers de la population étudiante, ils augmentent très vite. On a vu, par exemple, que dans les 4 dernières années, les loyers étudiants moyens ont augmenté de 18% en 4 ans, là. Donc ça, en termes d'inflation, c'est très significatif.
Donc en ce moment, les étudiants doivent soit avoir de l'aide parentale plus importante qu'auparavant, ou sinon se trouver un travail. Mais là, les heures sont limitées. Est-ce qu'on peut travailler quand on est à l'université ou au cégep?
Exactement. Nous, ce qu'on voit comme tendance dans les données, c'est que l'aide parentale, ça évolue pas beaucoup, parce que je pense que les parents, ils font déjà tout ce qu'ils peuvent. On voit plus d'étudiants et étudiantes qui se retournent vers le travail, qui travaillent plus, qui travaillent à temps plein peut-être, qui donc justement réduisent leurs heures disponibles pour les études. On voit aussi des gens qui s'éloignent plus de leur lieu d'études, donc ils doivent se déplacer plus, ce qui est aussi une perte de temps, où ils acceptent des logements qui sont trop chers et sans dette, ou, puis ça c'est évidemment c'est le dernier recours, mais c'est un qui nous préoccupe, ils vont simplement annuler ou reporter leur projet d'études parce qu'ils trouvent pas un endroit abordable où se loger.
Est-ce que au moins le fait qu'il y a une pénurie de personnel partout, ça permet quand même de plus facilement trouver un travail qui est pas loin de l'université, par exemple, avec un horaire qui fait du sens avec les études? Est-ce que c'est un petit peu plus facile à ce niveau-là?
C'est une hypothèse qui se tient, là. On pense que peut-être effectivement ça peut jouer en leur faveur, mais à moyen terme, la situation va pas en s'améliorant, parce que parlant de pénurie de personnel, le fait qu'il y a des établissements d'enseignement qui n'arrivent pas à loger leurs étudiants, ça fait que des programmes où on a besoin de diplômés pour rentrer sur le marché du travail n'arrivent pas à se remplir. Donc, on risque d'accroître notre pénurie, par exemple, d'infirmières à moyen terme, parce qu'on n'arrive pas à les accueillir sur les bancs d'école.
Au niveau des résidences étudiantes, là, donc vraiment résidences dédiées, je comprends que les appartements autour d'un milieu d'études les propriétaires peuvent bien justement faire évoluer le prix comme ils le veulent. Dans les résidences, est-ce que ça évolue aussi à la hausse? Je suppose qu'ils sont pas capables de suffire à la demande rendue là?
Effectivement, les résidences qui sont possédées par des établissements d'enseignement sont saturées dans presque toutes les villes au Québec avec des longues listes d'attente. La bonne nouvelle, c'est que dans bien des cas, elles sont des options abordables, évidemment, qui ne répondent pas à la demande. Le défi qu'ont les établissements d'enseignement à qui on parle, c'est que c'est plus au niveau de l'entretien, parce que ça leur prend aussi des crédits budgétaires pour être capable de maintenir ce parc de logements-là. Mais évidemment, ils sont pas dans le métier de charger le plus cher possible aux étudiants. Donc, c'est souvent l'option la plus abordable dans une ville donnée.
Bon, on comprend que c'est pas un problème qui va se régler demain, donc il faut penser à des solutions. Qu'est-ce que vous dénotez qui pourrait être fait par les gouvernements, les milieux scolaires pour pouvoir améliorer les choses?
Ben nous, on pense qu'il est temps de s'attaquer à bras-le-corps à l'enjeu. Là, une des raisons pour lesquelles on est dans cette situation-ci, c'est qu'on a un peu oublié dans les dernières décennies de politique publique l'enjeu du logement étudiant. Donc, on pense qu'on est mûr pour une action musclée là-dessus. Puis la bonne nouvelle, c'est que c'est pas obligé de coûter très cher à l'État. Nous, on propose, par exemple, une approche qui serait complémentaire au développement de résidences. Évidemment, ça prend aussi des résidences, mais avec une approche d'économie sociale. Donc, nous, par exemple, on est une entreprise à but non lucratif. On peut réaliser des projets de logements abordables, puis avec très peu de subventions, ultimement, parce qu'on va être capable de mobiliser des investissements privés, des investissements de l'économie sociale, etc. Puis c'est comme ça qu'on pense qu'on peut arriver à réaliser le plus vite possible, le plus de logements étudiants possible, et ça à un coût très raisonnable pour l'État.
Ouais, est-ce qu'on peut penser que des entreprises qui veulent, dans certains domaines où il y a justement là, des grandes pénuries, près de cégep, d'universités où ils ont, disons, des programmes importants, pouvoir mettre la main à la pâte un peu pour aider à financer du logement, pour s'assurer qu'il y ait le nombre maximal d'étudiants possible?
Absolument. Un des avantages des modèles d'affaires puis de développement en économie sociale, c'est que c'est très flexible au niveau des partenariats. Donc nous, par exemple, pour des financements de projets, on peut travailler autant avec des associations étudiantes, des établissements d'enseignement, des entreprises privées, des fonds de travailleurs. Tous ces acteurs-là peuvent avoir un morceau de la solution. On ne s'attend pas évidemment à ce qu'ils soient nécessairement capables de réaliser des projets de logement étudiant au complet. C'est là où nous, on arrive pour réaliser des projets clés en main. D'ailleurs, des gens qui veulent mettre l'épaule à la roue sont invités à nous contacter là, à travers notre site web utile.org.
Allez-vous tenter de passer le message aux différents partis politiques? Là, les élections s'en viennent. Ça peut être une source de débat, de nouvelles idées, entre autres?
Oui, on est en train de faire la ronde, justement. Là, on a des rencontres avec la majorité des partis politiques. Puis on pense qu'effectivement, c'est un sujet qui peut paraître un petit peu être de niche, mais qui est une belle opportunité pour innover en matière d'intervention publique, en matière de financement de logements abordables, puis surtout offrir une sortie de crise pour le logement en général, parce que construire plus de logements étudiants, c'est libérer des logements pour d'autres ménages sur le marché locatif, c'est apaiser le marché locatif dans les villes universitaires, là où souvent la crise est pire. Donc, c'est vraiment une solution gagnante-gagnante pour le gouvernement, les municipalités et les établissements d'enseignement.
Très intéressant dossier. Bien, merci d'avoir été des nôtres. Julien Lévesque, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir. Une excellente journée.
Julien Lévesque est directeur général de l'unité de travail pour l'implantation de logements étudiants.